Bonjour les collègues, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, les deuxièmes jeudis de chaque mois de 15h à 15h30 sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, une émission qui fait monter l'aïoli, qui boulègue les consciences et qui dit stop aux connos. Bonjour aux auditeurs de Radio Galère, vous êtes bien toujours en 2016 et vous écoutez l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, La Gueule Ouverte, la 35e, animée encore et toujours par Christine. Alors, bonjour Christine.
Et bonjour Hervé.
Alors, notre émission d'aujourd'hui va aborder deux thèmes majeurs pour Attaque. D'abord, en première partie, celui de la transition, avec des choses concrètes qu'on peut mettre en œuvre dès maintenant. Et puis, en deuxième partie, les traités transatlantiques TAFTA et CETA, avec certaines échéances majeures pour le devenir de ces traités au mois d'octobre.
Oui Hervé, et je me trouvais le 20 septembre dernier pour la journée nationale de la transition à la soirée organisée par Attaque sur les alternatives concrètes où de nombreux acteurs de la transition se trouvaient réunis. J'ai pu interviewer deux actrices et acteurs de cette transition déjà en marche et on va commencer par la NEF qui est une bande éthique. Et oui, ça existe et qui se met petit à petit en place et a déjà beaucoup de réalisations à son tableau. Alors on écoute l'interview. Bonjour la NEF. Un grand bateau pour une banque. Ça, on voit des grandes affiches dans le métro sur crédit coopératif qui se vantent d'être équitable, tout ça. Vous étiez lié à cette banque avant ?
Ben, on est toujours lié parce que c'est notre partenaire depuis 1988. Donc on est toujours lié avec eux sur la gestion des comptes courants pour les professionnels et les particuliers et sur la gestion des livrets, donc de notre épargne, quoi. C'est une obligation légale qu'on a d'être adossé, donc d'avoir un organe de tutelle qui est aujourd'hui le crédit coopératif. Donc qui nous permet d'exister en fait. Donc on est obligé de garder contact avec eux et notamment sur ce partenariat bancaire qui nous permet de proposer encore des produits chez eux. Mais là on est en train de devenir indépendant sur les deux produits phares pour nous qui sont le compte courant professionnel et le livret NEF qui nous permettent d'avoir donc 100% de gestion dessus. On a essentiellement, nous, en fait, c'est de l'épargne. Donc, on récolte de l'épargne auprès des citoyens français. Et ensuite, nous, on le redistribue sous forme de prêts pour des projets qui sont éthiques sur le social, le culturel et l'écologie. Donc, on peut prêter à des agriculteurs qui sont en bio ou en permaculture, en biodynamie. Après, sur le social, ça peut concerner l'insertion professionnelle, le handicap, les crèches, les écoles. Et le culturel, ça va d'une petite association qui fait du théâtre, par exemple, ou une compagnie de théâtre, à de la maison d'édition, de la radio associative, etc. France, la NEF, c'est à peu près 80 salariés sur le territoire français. C'est chaque année à peu près un peu plus de 30 millions d'euros de prêts qu'on redistribue donc dans l'économie. On a plus de 36 000 sociétaires sur le territoire français. Et depuis la création de la NEF, on a financé à peu près 5 000-6 000 projets donc sur le territoire français, puisque c'est uniquement en France. Le projet, c'est vraiment de développer sur les territoires, donc en France et puis surtout après en région, puisqu'on a quatre grandes régions. Donc on a Lyon, on a Paris, on a Nantes et Toulouse. Et ensuite, on a des organisations avec des banquiers, ce qu'on appelle des banquiers itinérants comme moi, qui s'occupent généralement de deux ou trois départements. Avec ensuite des chargés de crédit et surtout tout un vivier de bénévoles qui sont répartis dans ce qu'on appelle des groupes locaux et qui nous aident à développer en fait la coopérative sur les territoires en tenant un stand, en témoignant en fait de leur engagement bénévole. Donc c'est une organisation très, très coopérative. Voilà.
Vous pensez quoi des monnaies locales ?
Ben nous, on est partenaire des monnaies locales puisqu'on les accompagne sur la partie gestion de compte. C'est-à-dire qu'on leur met à disposition soit un compte courant professionnel, soit un livret pour qu'ils puissent gérer les fonds en fait, qui sont en circulation. Donc on en pense du bien.
Et comment on fait pour vous contacter ? Parce que là, je vois que ça commence.
Eh ben, vous pouvez aller sur lanef.com et retrouver toutes les délégations et tous les groupes locaux pour si vous souhaitez avoir un contact local.
Alors, vous avez compris. Si vous avez des petites économies sur un livret de caisse d'épargne, pourquoi ne pas le transférer sur un livret de la NEF et contribuer ainsi à œuvrer pour des investissements dans la transition plutôt que votre argent serve à financer l'armement ou je ne sais quelle multinationale par le biais des requins de la finance.
Et oui, Hervé, il y a aussi d'autres trucs hein, tout aussi épatants comme Enercop, qui permet d'avoir un fournisseur d'électricité un peu plus propre à tout point de vue que l'électricité d'EDF.
Oui, ben bonjour, Enercop, c'est un fournisseur d'électricité 100% renouvelable qui a été créé il y a 10 ans, au moment de l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence. Et Enercop a été fondé par des acteurs engagés comme Greenpeace, Biocop, la Nef, etc. Et nous, on est Enercop PACA, donc la coopérative régionale, car aujourd'hui, il y a une dizaine de coopératives en France dans le réseau Enercop. Il y a une volonté de décentraliser aussi l'activité. Voilà, et donc la particularité d'Enercop, c'est donc de proposer une électricité 100% renouvelable aux particuliers ou aux professionnels. C'est-à-dire qu'on s'approvisionne par des contrats directs avec une centaine de producteurs en France. Quand on dit renouvelable, ça veut dire hydraulique, solaire, éolien, biomasse. Elles sont les quatre sources d'énergie qu'on utilise. Et l'autre spécificité d'Enercop, c'est qu'on est une coopérative. Donc on a un statut qui nous permet d'impliquer tout le monde, en tout cas tous ceux qui souhaitent prendre des parts au capital de la coopérative.
Donc c'est une coopérative de production. Ce sont les producteurs, la centaine de producteurs dont vous parlez, qui sont les membres de cette société.
Comme on est une coopérative, on est une SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, et il y a 6 collèges. Donc il y a le collège des producteurs, le collège des consommateurs, le collège des partenaires. Voilà. Et donc ça permet de représenter au sein du projet toutes les parties prenantes de la question énergétique, on va dire. Donc sont réunis au sein de la coopérative à la fois les producteurs et les consommateurs.
Vous êtes créé au moment où ça s'est libéralisé. Moi, jusque-là, j'étais plutôt pour un grand service public de l'électricité, puis pour faire changer la position de l'État là-dessus. Vous en pensez quoi ?
Alors, nous, ce qui est clair, c'est qu'on n'a pas souhaité forcément l'ouverture du marché. On est plutôt une réponse à ça. Hein. C'est-à-dire qu'Enercop a été créé parce qu'il y a eu l'ouverture à la concurrence. Et surtout, c'était l'idée de, comme il n'y avait plus ce service public, de proposer une troisième voie, en fait. C'est-à-dire... on est de forme privée, on est quand même une entreprise privée, mais d'intérêt collectif. Donc il y a l'idée de créer quelque chose qui n'existe plus, un service citoyen de l'énergie et de permettre la réappropriation citoyenne des questions énergétiques au travers du projet Enercop.
On a vu récemment en Allemagne une société qui vendait du 100% renouvelable et qui ensuite... a été racheté par Sam Suez. Ça risque pas de vous arriver.
A priori, ça n'en prend pas le chemin. Aujourd'hui, la société donc Enercop est détenue par ses sociétaires. On a 23 000 sociétaires en France. Et donc ça, c'est une énorme force. On a à peu près 9 millions d'euros de capital social, dont 80% de consommateurs. Donc ce sont des gens qui ont fait le choix de consommer une électricité durable et de placer leur argent dans le projet Enercop parce qu'ils y croient. Donc non, on a peu de perspectives de rachat, et en tout cas, c'est pas du tout dans notre volonté. Par ailleurs, on est une société qui est rentable, hein, qui a atteint son équilibre financier en 2010, parce que en fait, on pratique depuis l'origine le vrai prix de l'électricité, en fait. C'est-à-dire que le prix de l'électricité en France ne reflète pas du tout les coûts de production, c'est le problème, et qu'on avait un coût très bas de l'électricité, malgré le fait que c'est déjà beaucoup pour certains ménages, mais on a un prix qui ne reflète pas les coûts de production. Et nous, à l'inverse, on a décidé de pratiquer un vrai prix, qui est certes un petit peu plus cher, mais qui est un prix stable dans le temps, et donc du coup qui nous donne une vraie stabilité aussi. Et Enercop, voilà, depuis 2010, c'est à l'équilibre financier. Il n'était pas cette année parce qu'on a fait des investissements pour se développer, et pendant quelques années, je pense qu'on va investir pour essayer de gagner de nouveaux clients, mais c'est un projet qui est viable économiquement. Tarif de première nécessité, c'est quelque chose qui avant était pratiqué uniquement par EDF et maintenant tous les fournisseurs peuvent le proposer. En tout cas, nous, chez Enercop, on le propose. Donc il y a certaines conditions à remplir, mais ce tarif de première nécessité est accessible chez Enercop. Alors concrètement, Enercop en France, c'est 40 000 consommateurs aujourd'hui. À la fois, c'est beaucoup. Il y a 3 ans, on était encore à 15 000 consommateurs. Et en même temps, c'est vrai que ça reste une goutte d'eau, hein, parce qu'il y a 35 millions de compteurs en France. Mais voilà, on progresse. En PACA, on est 3 000 consommateurs. Et il y a de plus en plus de gens, quand même, on le constate, qui sont intéressés à acheter responsable, y compris, pas seulement dans l'alimentation, mais aussi dans d'autres domaines comme l'énergie, et qui veulent savoir où va leur argent quand ils payent leur facture d'électricité.
En tout cas, cette dame m'a tout à fait convaincu qu'il était temps que je mette en pratique mes actes avec mes idées. Pour résumer, oui, EDF n'est plus un service public depuis longtemps. Oui, il n'y a vraiment plus de raison de continuer à financer cette boîte qui mise sur le tout nucléaire et pourrit la planète pour des millénaires. Et si en plus, il n'y a pas de grosse différence de tarifs, que les prix sont stables sur la durée, contrairement à EDF, et qu'il existe des tarifs sociaux,
eh bien il n'y a aucune raison de ne pas changer de fournisseur d'énergie. Et voici une dernière illustration de cette transition en marche, avec l'exemple de ce paysan qui fait partie d'un collectif d'associations qui travaille sur la façon dont on peut devenir le plus autonome possible, en particulier du point de vue énergétique et de culture.
Bonjour, alors je vois des œufs en train de cuire au soleil.
Oui, c'est ça. C'est un cuiseur solaire en fait. Donc un cuiseur solaire, c'est un petit appareil qui est très facile à fabriquer parce qu'on souhaite que ce soit facilement accessible. Donc c'est qu'une petite boîte faite avec du bois et puis une isolation qui est faite avec du papier journal froissé ou des factures froissées. Ça marche aussi, les factures froissées. Au moins, elles servent à quelque chose. Voilà. Et donc cette boîte, lorsqu'on la met au soleil, eh bien, la température s'élève progressivement jusqu'à 100 degrés. Et donc, ça permet de mijoter des plats, ça permet de cuire tout ce qui est mijoté. Voilà.
Il y a quoi dans votre marmite ?
Alors, dans la marmite, là, comme on est sur un marché paysan, il n'y a que des légumes bio. Voilà, ça, c'est important de le dire aussi, parce que au moins, l'agriculture biologique, ça permet d'avoir des sols propres et ça permet d'avoir aussi une eau souterraine propre. Et puis, il y a des œufs qui durcissent tranquillement dans le four. Voilà.
Ok. Et alors, c'est éco-paysan ? Votre association, non, c'est APT, je ne sais pas ce que c'est.
Alors nous, on a une association qui est à Mérindol dans le Vaucluse, qui s'appelle l'Association pour la promotion des techniques écologiques. Et en même temps, on fait la promotion de tout ce qui est autonomie énergétique. Donc moi, ça fait 10 ans que je ne suis plus raccordé ni à un réseau d'eau, ni à un réseau d'électricité, ni rien. Donc j'ai isolé ma maison avec de la paille de lavande. Donc c'est tout ça qu'on apprend à l'association, c'est comment être autonome. Alors pour nous, c'est important d'être autonome pour plusieurs points. D'abord parce qu'on ne va pas consommer du pétrole et on ne va pas consommer d'électricité nucléaire. Donc déjà, point de vue de la pollution générée, notre impact est plus faible. Et en plus, la consommation de pétrole, chez moi, ça rime avec la guerre. Puisque tous les conflits qu'il y a en ce moment et tous les migrants qui affluent, qui fuient leur pays, qui vivent dans des conditions lamentables, c'est dû en grande partie à l'exploitation des ressources pétrolières et uranifères que nous, on exploite. Donc quelque part, on crée la misère, et en plus on ne veut pas des migrants, et on pollue la planète. Donc c'est pas intéressant, alors qu'on a du soleil et qu'on pourrait l'exploiter. Donc je suis heureux de pouvoir vous le dire à l'antenne de Radio Galère, c'est qu'on peut vivre ici en Provence, avec l'énergie solaire, avec l'énergie du vent, voilà, sans être raccordé à un réseau. C'est un mode de vie un peu différent, mais qui amène aussi un côté très positif, parce que ça amène à vivre avec pas beaucoup. Et quand on vit avec pas beaucoup, on n'a pas besoin de travailler beaucoup. Donc aujourd'hui, moi, je travaille plus que 2 jours par semaine, et je m'en sors mieux qu'avant, quand je travaillais 5 jours par semaine.
Donc vous n'êtes pas paysan ?
Et je suis paysan parce que maintenant que je travaille plus que 2 jours par semaine, il me reste du temps. Et ce temps, je le mets à profit pour cultiver, et notamment cultiver des variétés de céréales anciennes qui sont aujourd'hui interdites à la culture. Voilà. Alors en même temps, il y a un autre stand, là où vous parliez tout à l'heure, d'éco-paysan.
Alors qui ose interdire la culture ?
Ah ben là, c'est quelque part, c'est les États, c'est l'État français avec la complicité des lobbies. Hein, puisque les lobbies tels que des entreprises comme Bayer, maintenant qui ont racheté Monsanto, eux, leur objectif, c'est d'arriver à ce que les graines soient leur propriété. Donc ils ont créé un catalogue, ça s'est créé après la guerre, mais bon, aujourd'hui, c'est eux qui participent à faire évoluer ce catalogue. Et donc, à ce catalogue, on ne peut cultiver aujourd'hui que les graines qui sont dans ce catalogue officiel. Et en grande majorité, c'est soit des hybrides, c'est-à-dire des plantes où si on ressème la graine, on ne retrouvera pas le même légume, ou alors des variétés OGM avec des brevets dessus. Voilà. Et toutes les semences paysannes aujourd'hui, elles sont pratiquement hors catalogue. Alors que c'est des semences qui ont été cultivées par tous les paysans pendant des millénaires. Et donc on a finalement ces sociétés, en quelques années, là, une dizaine d'années, on spoliait complètement, on volait tout ce travail de ces paysans-là pour les mettre à leur profit.
Et Cocopelli, ça existe toujours ?
Alors Cocopelli, ça existe toujours. Il y a aussi d'autres structures comme Semences Paysannes qui essayent de maintenir tout ça. Et puis il y a des paysans aussi qui, eux, se disent ben, « nous, non, on n'a pas envie ». Donc on continue à faire nos graines, on continue à maintenir en vie ces variétés. Voilà, ça je trouve que c'est aussi important. Pour moi, c'est important de faire ça. Alors du coup...
On vous trouve où au fait ?
Alors, nous, on se trouve à Mérindol, dans le Vaucluse, et en même temps, on est parti d'un constat, c'est qu'on a besoin d'énergie pour vivre, mais on a aussi besoin d'énergie pour nous nourrir, puisque le modèle agricole qu'on a mis en place aujourd'hui, qui est un modèle productiviste, pour fabriquer une calorie alimentaire, il faut 8 calories pétrole. Donc ce pétrole, vu qu'on ne l'a pas, ça veut dire que si demain on n'a plus de pétrole, après-demain on fait la guerre pour pouvoir se nourrir avec notre modèle agricole qu'on a mis en place. Donc nous, on voulait créer quelque chose d'autre, de différent, et on voulait le faire aussi avec les structures mises en place par toute la société, donc les lycées agricoles. Et donc, avec la collaboration entre le CFPPA de Aix-Valabre, le CFPPA de Carpentras dans le Vaucluse, Carpentras-Serre, les ADR de Bouches-du-Rhône, les ADR de Vaucluse et Agribio 84, ainsi que notre association APTE, on a créé un parcours qui s'appelle le parcours éco-paysan, où l'objectif, c'est d'installer des agriculteurs, mais sur des petites surfaces, sans passer par la case emprunt, parce que ça aussi c'est un truc où on a l'impression qu'on ne peut pas vivre si on n'emprunte pas, c'est faux. Nous, on propose des solutions pour fabriquer de l'habitat à bas coût, avec de la paille, avec de la terre, avec tout ce que les paysans possèdent sur leur terrain. On propose de l'autonomie énergétique, on propose aussi des circuits courts, de façon à ce que les investissements pour pouvoir produire une nourriture de qualité ne nécessitent pas le passage par la case emprunt, et permettent de remettre des agriculteurs à proximité des agglomérations ou sur les dernières terres qui restent encore disponibles à l'agriculture.
D'accord. Donc, mais une adresse ou un téléphone ou un mail pour vous joindre?
Alors, éco-paysan, on peut trouver ça sur Internet avec www.ecopaysan.fr. Voilà. Et donc là, vous aurez tous les liens et tous les renseignements pour ce genre de démarche et les liens aussi avec l'association APTE.
Avec l'électricité solaire ou pas?
Avec l'électricité autonome, voilà. Nous, on essaye de valoriser les énergies renouvelables, mais uniquement dans le but de s'autonomiser, pas pour faire du business avec.
Parce merci.
Il y a beaucoup trop de business vert.
Waouh, vraiment trop fort. Finalement, les lendemains qui chantent, c'est pas pour demain, ça peut être déjà de suite et sans attendre. Allez, pour fêter ça, on va s'écouter une chanson de Massilia qui s'appelle « Rendez-vous à Marseille ». Et à propos de Massilia, sais-tu que vient de sortir un film sur le Commando Fada? Un documentaire musical baptisé simplement Massilia Sound System, le film qui a été réalisé par Christian Philibert, qui est aussi l'auteur des 4 saisons des Spigoules, de Travail d'Arabe et d'Africa Yoli. Allez, en attendant le film, on écoute Rendez-vous à Marseille et c'est Massilia.
Alors, et ce Paris-là? C'est vraiment beaucoup plus grand que Marseille.
À Paris, j'ai vu au moins 50 canadiens.
Du monde est sans doute Paris. Ça ne me vexe pas, au contraire je ris. J'instaure le débat et je vais être précis. Y'a pas d'enfer, y'a pas de paradis. Moi j'aime ma cité et c'est pourquoi j'y vis. Dans la compétition au titre par catégorie. Si Paris est la plus belle, Marseille est la plus jolie, yeah. La Canebière, le Vieux-Port et Notre-Dame de la Garde. Les réformés, le cours Julien, la Plaine et la gare Saint-Charles.
Okay, les belles amours.
Es ma città, Madonna, ma capitale. Es ma nación, ma dulce, ma generale. Es mi unido, mi madre, mi recalí. Oh, mi bel jardín, dei delici, dei delici.
Spéciale dédicace à tous les amuseurs, à ceux qui font danser les Marseillais, à tous les ragamuffins, les rockers, les rappeurs, et à tous ceux que j'allais oublier. J'écris une épitaphe, encore deux ou trois taffes, j'enterre la tristesse et le stress. Je profite du rhythm, j'assure l'intérim, j'évacue la pression, je me redresse. Fais bouger tes pieds, tes genoux, tes hanches et puis tes épaules. Plus on rit, plus il y a de fous, plus on est fou, plus on rigole. Il faut chanter avec passion, organiser des farandoles. Écoute, fais bien attention, mais apprends vite les paroles.
C'est un rendez-vous à Marseille, là sur le quai. Voyage au pays des merveilles, ensoleillé. C'est un rendez-vous, dépêchez-vous, avec la cité qui vous rendra fou.
Vai avant, vali mon picciu, siamo bulegan, di lucanto, ugge san, sulle potu, tu giù de flamma, sulle calzu.
Es ma città, Madonna, ma capitale. Es ma nazione, ma dulce, ma generale. Es un nido, un mate, un recalí. Oh, mon bel jardin, dei delici, dei delici. Là sur le quai.
Nous voilà de retour pour cette deuxième partie de la gueule ouverte et nous allons parler d'abord d'échéances capitales en ce mois d'octobre en ce qui concerne les traités de libre-échange que sont le TAFTA et le CETA. Et puis après on parlera aussi un peu de la COP22, la conférence sur le climat qui aura lieu en novembre à Marrakech avec notamment une initiative très originale pour faire entendre la voix des peuples qui bordent la Méditerranée. Donc déjà, pour en revenir au TAFTA et CETA, on va un peu résumer l'affaire. Donc depuis 2013, une large mobilisation s'est mise en place contre le TAFTA, ce projet d'accord qui vise à libéraliser les échanges commerciaux et les investissements entre les États-Unis et l'Union européenne. Les négociations vont plus lentement que prévu, mais contrairement aux annonces récentes du gouvernement, elles continuent. Pendant ce temps, l'Union européenne s'apprête à signer un traité similaire avec le Canada, le CETA. Celui-ci doit être soumis à l'approbation des États membres le 18 octobre prochain. S'il est approuvé, il sera soumis à la ratification du Parlement européen dans les mois suivants. Le TAFTA et le CETA auraient des conséquences graves, telles que par exemple l'abaissement des barrières tarifaires en matière agricole, qui aggraverait la crise que vivent déjà des centaines de milliers de paysans, et le nivellement par le bas des normes qui protègent la qualité de notre alimentation, la santé publique, la sécurité industrielle et l'environnement.
Et pour se mettre dans l'ambiance, on va écouter une interview que j'ai faite d'Antoine Richard, un des animateurs du collectif Stop TAFTA Marseillais, qui va bien nous planter le décor.
Alors, attaque à la fête de l'agriculture paysanne. Vous êtes...
Oui, Christine.
Vous êtes agriculteur, vous vendez... Des choux ?
On ne vend rien, mais on aimerait que les choux et les pommes de terre, les carottes, les belles tomates que l'on voit autour de nous puissent se vendre encore dans quelques années. Or, nous, on est là pour dire qu'il y a un grand risque avec ce qui est en train de se négocier ou qui est presque fini de négocier avec les accords de libre-échange entre nos pays d'Europe et les États-Unis, ou nos pays d'Europe et le Canada, qui va faire toute sa place à l'agro-industrie et qui va envahir nos marchés de produits de mauvaise qualité, OGM, pesticides et tout ce que vous voulez, et qui va finalement écraser l'agriculture paysanne, parce que, bien entendu, l'agro-industrie, elle a des rendements formidables pour nous produire des saloperies, en gros, quoi. Voilà. Donc on est là pour informer, et je dois vous dire que c'est très très urgent maintenant que tout le monde se mobilise, faire pression sur nos politiques pour que la ratification des accords déjà bâtis dans le secret entre l'Union européenne et le Canada, ça s'appelle le CETA, pour qu'il ne passe pas. Or, dans très peu de temps, au Conseil de l'Europe, qui réunit les ministres des différents gouvernements de nos pays, dont notre ministre, dont notre gouvernement, risque de dire OK pour cet accord avec le Canada, en prétendant qu'il est très bon, alors que celui avec les États-Unis, on va le rejeter parce qu'il n'est pas bon. Non, tout ça, c'est extrêmement dangereux, c'est très grave, parce qu'en fait, ces accords vont permettre à toutes les filiales américaines qui sont situées au Canada de faire pénétrer ou de pénétrer le marché européen au détriment de nos agriculteurs. Voilà. Mais il n'y a pas que ça, bien entendu. Je ne veux pas prendre la parole plus longtemps, madame, mais si vous voulez que je vous parle d'un autre risque, c'est que ces accords vont permettre aux grandes sociétés multinationales qui produisent les produits dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui produisent aussi du pétrole issu des gaz et pétrole issus des sols bitumineux, vont pouvoir envahir l'Europe, qui ne veut pas trop les produire, mesures de protection, alors que ce sont des modes de production qui vont contre tous les engagements pour lutter contre le réchauffement climatique. Et bien, par ce biais-là, d'un côté, nos gouvernements se gorgent de satisfaction parce qu'ils ont réuni le monde entier pour la COP21. De l'autre côté, on signe des accords qui vont à l'encontre de ça. Donc, s'il vous plaît, mobilisons-nous. Et là, on est là pour en parler avec tous ceux qui passent.
Édifiant. Et pour charger un peu la barque, on va revenir sur un fait totalement tu par les médias, mais révélé par le média numérique Contexte, et qui est l'étrange manœuvre des socialistes français pour éviter le blocage du CETA. Je m'explique. Le 18 octobre, donc on a dit, une réunion des ministres européens du commerce doit acter l'approbation de l'accord CETA. Pour entrer pleinement en vigueur, cet accord devra être ratifié d'abord par le Parlement européen, puis par chacun des parlements nationaux des États européens, dont, bien sûr, l'Assemblée nationale en France. Ce processus étant très long, il est d'usage que ce genre d'accord commercial entre en vigueur provisoirement dès qu'il est validé par le Parlement européen, et donc avant le vote des parlements nationaux. Cette possibilité facultative a par exemple été utilisée pour les accords avec le Pérou ou la Colombie en 2013, et devrait être saisie par les ministres européens du commerce le 18 octobre, y compris le français Mathias Feckl, qui est favorable à l'application provisoire pour que l'accord commerce rentre rapidement en action et commence à produire ses effets.
Et c'est pourquoi une résolution a été soumise aux députés, préparée notamment par la présidente écologiste de la Commission des affaires européennes, Danielle Auroi. Ce texte, soutenu par 24 députés socialistes, 13 élus radicaux et 12 députés non inscrits, demandait à Mathias Feckl de s'opposer à la mise en œuvre provisoire du traité avec trois arguments. Premier argument, cet accord est trop important pour être appliqué avant le feu vert des parlementaires français et indirectement du peuple français. Deuxième argument, si d'aventure l'Assemblée nationale finissait par rejeter le CETA quand il lui sera soumis, les mécanismes prévus par l'accord auraient déjà commencé à s'appliquer, y compris le controversé système d'arbitrage privé qui survivrait 3 ans après la fin de l'application provisoire. Dernier argument, il existe un doute sur la compatibilité du CETA avec le droit européen. Il vaudrait donc mieux, selon eux, d'attendre le résultat de l'avis juridique de la Cour de justice de l'Union européenne avant de ratifier l'accord.
Et malgré le bien fondé de ces arguments, la résolution a finalement été rejetée par 12 voix, 10 PS, 1 Les Républicains et 1 UDI, contre 4, 2 écologistes, 1 radical et 1 PS, laissant les mains libres à Mathias Feckl pour appuyer l'application provisoire le 18 octobre. Sauf que, pour aboutir à ce résultat, le groupe socialiste a procédé à un étonnant tour de passe-passe. Il a fait démissionner le matin même du vote 5 députés socialistes de la Commission des affaires européennes pour les remplacer par 5 autres députés qui ont redémissionné aussitôt après le vote pour laisser la place à leurs anciens collègues. Bien plus qu'une manœuvre anecdotique, ces démissions-renominations s'apparentent à un petit coup de force destiné à éviter un vote hostile au gouvernement au sein d'un groupe socialiste déjà bien fébrile.
Et tout ça alors même que le 21 septembre dernier, 77 des 288 députés socialistes ont co-signé un courrier demandant à François Hollande de s'opposer à l'application provisoire du CETA, en dénonçant, je cite, « un mépris des démocraties nationales ». Et si on veut aller plus loin, cette séance de la Commission des affaires européennes du 5 octobre est disponible en vidéo sur le site de l'Assemblée.
On peut préciser que, pour terminer, que terminer provisoirement, que faire démissionner des députés d'une commission pour les remplacer par leurs collègues est une pratique courante, de toutes tendances confondues, et que si elle est tout à fait légale, on peut s'interroger sur l'éthique d'une telle pratique au sein des commissions parlementaires dont les membres sont censés se spécialiser sur des sujets pour pouvoir travailler et voter des textes en connaissance de cause. Et pour enfoncer un peu plus le clou, on va écouter une autre interview que tu as faite, Christine, une interview qu'on pourrait appeler Tafta Burke.
Bonjour madame, il me semble que vous vendez pas beaucoup depuis tout à l'heure.
Et non, on montre aux passants ce que va être l'alimentation après la signature du traité CETA. Parce qu'on nous affirme qu'on ne vote pas le TAFTA, mais on est en train de voter le traité transatlantique avec le Canada qui s'appelle CETA et qui a les mêmes inconvénients, c'est-à-dire aucun contrôle sur l'alimentation, les appellations d'origine contrôlée bafouées et surtout les multinationales vont avoir le droit de porter plainte contre les gouvernements s'ils font des lois qui les gênent dans leur productivité. Donc ce qui veut dire qu'il n'y aura plus aucun contrôle sur le climat. Malgré les signatures de la COP21. Il y aura aussi le transfert des gaz de schiste du Canada et beaucoup de CO2 pour traverser l'Atlantique. Donc c'est un drame et c'est le 27 octobre que les chefs d'État européens vont signer et le traité va être mis en place immédiatement sans que les parlementaires européens aient donné leur avis. Il n'y aura aucune démocratie sur ce passage de traité Canada avec le Canada, le CETA.
Bon, alors écoute, on va mettre au conditionnel tout ça quand même. Tu nous dis vont signer, peut-être pas.
Alors il y a 3 chefs d'État pour le moment qui tirent un peu la patte, mais tout de suite les Juncker et toute l'Europe est allée les voir pour les convaincre et je sais qu'ils ont des tas de moyens pour les convaincre financièrement.
Ouais, et nous on a un moyen pour se battre là dans pas longtemps, non?
Donc il y a une journée nationale le 15 octobre. Toutes les Bouches-du-Rhône vont se retrouver à Aix-en-Provence. Dans les
toute Allemagne. La région PACA même.
Même toute la région PACA, effectivement. Vont se retrouver dans les allées provençales le 15 octobre après-midi à partir de 14h. Et il y aura des manifestations de rue pour expliquer plus précisément. Et puis c'est là qu'il faut se mobiliser, être présent, être le plus nombreux pour montrer qu'on n'est pas d'accord.
Voilà, et il y aura aussi une mobilisation à Paris, dans d'autres grandes villes en France.
Une mobilisation sur Paris énorme pour protester contre ce traité. Et sur Aix-en-Provence et Marseille, il y a des conférences pour expliquer ce que vont être ces traités transatlantiques.
On va changer de sujet, mais pas tant que ça, avec la COP22. La 22e conférence des parties sur le changement climatique qui se déroulera en novembre prochain à Marrakech, au Maroc. Ce premier rendez-vous, après l'accord de Paris, portera notamment sur le financement et sur les stratégies d'adaptation, deux enjeux primordiaux pour les pays du pourtour méditerranéen, en première ligne des dérèglements climatiques. L'enjeu est donc crucial, pourtant jusqu'ici, les décideurs du monde entier y ont très peu ou très mal répondu. La Méditerranée et le Sahel sont des points clés des grands bouleversements en cours. Si les principaux émetteurs de carbone n'infléchissent pas drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 35 ans seulement, 290 millions de Méditerranéens devraient subir une pénurie d'eau douce. Les eaux de surface se réchaufferont de 2 à 4 degrés d'ici la fin du siècle, entraînant l'effondrement de pans entiers de nos activités et de gigantesques pertes de biodiversité.
Et à l'horizon de cette COP22, plusieurs dizaines d'organisations et de mouvements citoyens d'Afrique et d'Europe ont fait naître une initiative de partage. Ça s'appelle l'Odyssée des alternatives. Du 19 octobre au 10 novembre, une flottille reliera par la mer et en itinérance 6 escales de l'Espagne jusqu'au Maroc en passant par la France, l'Italie, la Tunisie et l'Algérie. Ces escales donneront la parole à celles et ceux qui n'en ont pas. Elles prendront la forme de forums, de fêtes des alternatives et du pouvoir d'agir citoyen. Elles permettront d'avancer vers une adaptation au changement climatique, s'avérant émancipatrice car basée sur les écosystèmes et les communautés et sur un renouveau démocratique à la fois local, national et international. L'escale française aura lieu à la Seyne-sur-Mer le samedi 22 octobre. Alors, profitons de cette occasion pour faire entendre nos voix et exiger des États présents à Marrakech qu'ils augmentent les fonds destinés à l'adaptation en dédiant au moins 50% de ces sommes à des projets fondés sur les communautés, les mouvements et organisations citoyennes, ainsi que le renforcement des écosystèmes.
On reparlera de tout ça en détail au cours de cette année dans nos prochaines émissions avec des invités, des thèmes à partir d'exemples locaux. Bon. En attendant, on va s'écouter une nouvelle chanson de Bernard Lévillier et Cyril Mokayesh qui s'appelle « La loi du marché ». Alors Bernard Lévillier, c'est le petit gars de Saint-Étienne, hein, avec des gros biscottos comme à attaque, hein, qui n'hésite pas à jouer dans des lieux aussi divers que les prisons, les hôpitaux, les écoles, les maisons, les lieux d'occupation. Bref, un petit gars comme on les aime. Quant à Cyril Mokayesh, il était joueur de tennis et fut à 18 ans champion de France junior, mais ça s'est arrangé depuis qu'il est devenu chanteur. Alors, on écoute Cyril et Nanar, le Stéphanois dans la loi du marché. Allez, c'est parti.
On vous laisse la tribune, les honneurs du pouvoir, on vous laisse voler la victoire. On vous laisse le soin de bien ingurgiter notre part de votre marché. On vous laisse notre âme sur le bas-côté, endettée, endettée, en détresse, à genoux de chagrin d'avoir fait le baise-main à l'austérité, son Altesse. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber.
On vous laisse libéral démocratisé, chômage à volonté. On vous laisse nos destins s'ouvrir les veines en commission européenne. On vous laisse allonger la peur dans notre lit, mais faut pas toujours croire ce qu'on dit. Athènes, Apollon a raison de chanter ma liberté.
On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse nos hivers et notre dignité, de quoi vous distraire pour quelques années.
On vous laisse ArcelorMittaliser à Florange, l'or et l'acier.
On vous laisse cet étrange capitaliser sur la précarité.
On vous laisse à vos super hyper profits pour la belle vie.
Chez Lidl, le pack de bière a des pulsions suicidaires. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse nos hivers et notre dignité, de quoi vous distraire pour quelques années.
Je pense être d'accord avec vous en disant que nous ne formons pas ici un club fermé. Ainsi seulement l'Europe réussira à mettre en valeur le patrimoine total qui est commun à tous les pays.
On vous laisse nos frontières se refermer, hommes à la mer émigrés, cap sur l'Angleterre depuis la Guinée, t'as le temps d'apprendre à nager.
On vous laisse nos frontières se refermer sur la Méditerranée. Enfant de la guerre, cherche un bout de terre pour apprendre à marcher.
De quoi vous distraire pour quelques quelques années. De quoi vous distraire et vous en aller. De quoi vous distraire et vous en aller. Quoi vous distraire et vous en allez.
On arrive à la dernière partie de l'émission avec l'agenda d'Attaque Marseille et tu vas peut-être nous dévoiler ce qu'Attaque a prévu de faire dans les semaines qui suivent.
Alors le samedi 15 octobre, c'est la journée nationale d'action contre les traités de libre-échange et on organise une mobilisation régionale à Aix-en-Provence, à la Rotonde aux Allées Provençales, de 15h à 18h. C'est lancé par les collectifs Stop TAFTA et CETA de PACA et il y a urgence parce que le Conseil européen, comme on l'a dit tout à l'heure, doit se prononcer le 18 octobre pour une ratification ou non avec le Canada de ce traité. Donc, soyons à la hauteur de l'enjeu. Samedi 15 octobre à 15h avec les collectifs Stop TAFTA de Marseille-La Ciotat, Aix-Gardanne, Salon, Alpes-Maritimes, Vaucluse, Alpes de Haute-Provence et même le Gard qui convergeront vers Aix-en-Provence. Il y aura des prises de parole, des stands, une exposition, du théâtre de rue, des chorégraphies, de la musique. Bref, rendez-vous samedi 15 octobre à Aix à partir de 15h.
Et pour un rendez-vous marseillais, vous pouvez venir à 13h30 sur les escaliers de la gare Saint-Charles et on prendra le car ensemble hein, après un petit visuel. Et donc je confirme, hein, citoyennes et citoyens, associations, élus, responsables politiques, on compte sur vous, samedi 15 octobre à Aix-en-Provence, aux Allées Provençales. Alors quoi d'autre ce mois-ci ?
Alors, là aussi, on en a un peu parlé dans la deuxième partie. Nous avons l'Odyssée des Alternatives qui fait escale à la Seyne le samedi 22 octobre de 10h à 18h30 sur le port. On en a parlé, donc, mais cette escale sera l'occasion de faire une grande fête, de parler climat, migration, justice sociale. De 10h à 18h30, donc le samedi 22 octobre à la Seyne, nous aurons carte libre pour laisser parler nos imaginaires, faire du lien et partager.
Tu en as encore sous le coude ?
Oui, le lundi 24 octobre, cette fois à 20h30 au cinéma L'Alhambra dans le 16e arrondissement à Saint-Henri et en partenariat avec Attaque Marseille, nous avons la projection en avant-première du nouveau documentaire de Gilles Perret qui s'appelle « La sociale ». Alors c'est quoi la sociale ? Ben, c'est la sécurité sociale. Il y a 70 ans, les ordonnances promulguant les champs d'application de la sécurité sociale étaient votées par le gouvernement provisoire de la République. Un vieux rêve séculaire émanant des peuples à vouloir vivre sans l'angoisse du lendemain voyait enfin le jour. Le principal bâtisseur de cet édifice des plus humanistes qui soit se nommait Ambroise Croizat. Qui s'en souvient ? Qui le connaît aujourd'hui ? Alors ce documentaire raconte cette belle histoire de la Sécu, d'où elle vient, comment elle a pu devenir possible, quels sont ses principes de base, qui en sont ses bâtisseurs, qu'est-elle devenue au fil des décennies. Et au final, se dresseront en parallèle le portrait d'un homme, l'histoire d'une longue lutte vers la dignité et le portrait d'une institution incarnée par ses acteurs du quotidien.
Oui. Et on peut rappeler que Gilles Perret n'en est pas à son coup d'essai, car il a déjà réalisé de nombreux documentaires, toujours relayés par Attaque, hein, comme « Les jours heureux » sur le programme du Conseil national de la Résistance. Puis il est à l'origine de l'association Citoyens résistants d'hier et d'aujourd'hui, qui se rassemble chaque année depuis 2007 sur le plateau des Glières pour renforcer l'esprit de résistance. Donc lundi 24 octobre à 20h30 à Cinéma L'Alhambra, ne ratez pas.
Et puisqu'il a été question d'Odyssée, et qu'Ulysse en était un des acteurs, on va offrir aux auditeurs de Galère une chanson qui commence à dater, parce qu'elle date de 1969, ça ne nous rajeunit pas, presque 50 ans déjà, on n'était pas encore né et Attaque n'existait pas. C'est chanté par l'ami Georges Brassens, ça s'appelle « Heureux qui comme Ulysse » et c'est tiré du film du même nom. Allez, zou, bouleg !
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a vu sans paysage, et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays et vertes années. Par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur, quelle est belle la liberté, avec le soleil et le vent, avec la pluie et le beau temps. On vivait bien content, mon cheval, ma Provence et moi. Mon cheval, ma Provence et moi. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. Heureux qui comme Ulysse a vu son paysage. Et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un joli matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand ça n'est fini des malheurs, quand un ami sèche vos pleurs, quelle est belle la liberté. Battu de soleil et de vent, perdu au milieu des étangs, on vivra bien content, mon cheval, ma Camargue et moi. Mon cheval, ma Camargue et moi.
Et pour finir en beauté, voici notre traditionnelle devinette des fins d'émission. Qui a dit, en parlant du réchauffement climatique et de ceux, scientifiques, associations, citoyens et autres, qui le reconnaissent et souhaitent le combattre, qui a dit donc, je cite, « Le soleil est une cause première du changement climatique et il doit être étudié. Ils disent toujours que c'est le CO2, que le soleil ne pourrait pas faire cela. C'est ce qu'ils disent. Vraiment, je ne comprends pas leurs arguments. »
Ben, pas facile celle-là, mais je me lance. Allez, j'accuse même. Comme au Cluedo, ben, ce ne serait pas Ségolène Royal, notre bien-aimée ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Elle est nommée depuis le 2 avril 2014 à son poste, et 2 ans et demi après, où en est-on? Eh bien, 2 lois sur la transition énergétique et la biodiversité complètement creuses, l'abandon de l'écotaxe, la centrale de Fessenheim qui renaît de ses cendres, l'autorisation de rejet des boues rouges prolongée jusqu'à Lempèbre, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes toujours dans les cartons, je pourrais encore allonger la liste, mais ce n'est franchement pas brillant. Sur le nucléaire, elle était favorable à un abandon de l'atome à échéance de 40 ans maximum, elle s'est depuis montrée en faveur de la construction d'une nouvelle génération de réacteurs. Concernant la démocratisation du dialogue environnemental, pour Ségolène, qui s'était faite le chantre de la démocratie participative, c'est des grenades à Sivens avec la mort de Rémi Fraisse. Bref, on pourrait en rire si ce n'était pas l'avenir de la planète qui était en question. Alors, c'est bien la royale, j'ai bon.
Eh non Hervé, c'est pas elle. Figure-toi qu'en préparant l'émission, je me suis intéressée de près aux climato-sceptiques. Évidemment. Et j'ai découvert cette phrase magnifique prononcée par le professeur Willy Soon lors d'une de ses conférences en 2013 et traduite par mes soins. Alors tu vas me demander, c'est qui celui-là? Eh bien, il paraît que c'est un physicien réputé, un climato-sceptique du Harvard Smithsonian Center for Astrophysics et qui martèle justement depuis des années que c'est notre astre, le Soleil, qui serait à l'origine de l'élévation globale des températures et non pas l'activité humaine, comme le prétend l'immense majorité des chercheurs. Il est ainsi l'un des noms que l'on brandit lorsqu'on veut contester le fait que ce seraient les émissions de dioxyde de carbone, le CO2, qui sont à l'origine du réchauffement climatique. Pour diffuser ses grandes idées, il a multiplié les conférences, les articles dans les revues scientifiques, les plateaux télévisés, et il a même été amené à témoigner devant le Congrès américain. Le problème, c'est qu'il s'est approché trop près du soleil, le Willy, et ça lui a chauffé le cerveau, puisque la plupart de ses travaux ont été financés par qui ? Par les industriels du pétrole et du charbon, à hauteur de la bagatelle de 1,2 million de dollars. Tu vois, Hervé ? Va falloir en faire un paquet des émissions pour reconquérir des esprits avec des climato-sceptiques payés par les industries polluantes, des banquiers d'affaires, des patrons de grandes entreprises pour nous parler d'Europe et d'euros, des économistes à gages pour nous parler d'économie, mais on va se battre, hein, parce qu'à la fin, c'est nous qu'on va gagner.
Très bien, Christine. Bah, il ne nous reste plus qu'à vous et à nous dire au revoir. Cette émission sera rediffusée le mardi 18 octobre à 14h et notre prochain rendez-vous aura lieu le jeudi 10 novembre à 15h, la veille du 11 novembre. Et là, on vous réserve une émission spéciale militaire. Alors, au mois prochain et d'ici là, ne lâchez rien.
C'était La Gueule Ouverte, le rendez-vous mensuel d'Attaque Marseille. On se retrouve le mois prochain, le deuxième jeudi du mois, de 15h à 15h30 sur Radio Galère. Allez, Zou, Bouleg, casse-toi, bye, bye.